Passerelle des Arts. Le podcast de l'Académie des Beaux-Arts.
Vincent Perraro, sculpteur, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion du prix de sculpture qui vous a été décerné par la Fondation Del Duca. La Fondation Del Duca, c'est surtout Madame Del Duca qui aime la peinture, la sculpture. Et grâce à elle, beaucoup d'artistes ont pu bénéficier de son aide. Et donc, c'est le cas. C'est le cas pour vous. Donc, je suis très heureux de vous voir maintenant parce que, au fond, on entend assez rarement s'exprimer les sculpteurs. Il est vrai qu'ils parlent le plus souvent à leur sculpture, mais c'est un sujet dont nous parlerons certainement, le rapport du sculpteur et de sa sculpture. Alors, une œuvre de sculpteur comme une autre œuvre artistique se développe avec le temps, par le temps et souvent contre le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, comment vous avez vous-même découvert la sculpture, voilà, si vous pouvez nous expliquer ça.
Alors, la découverte vraiment, on va dire, le choc de la découverte de la sculpture, j'ai découvert en fait enfant avec mon père, quand on est allé au musée Rodin rue de Varennes. Et ça, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, je pense. Ça a été un énorme choc parce que j'étais petit. Les sculptures étaient quand même grandes. Et puis, il y a une telle force qui se dégage de cette œuvre. Enfin, ça a été un vrai choc. Voilà. En plus, en fait... comme mon père est peintre, je pense que cette entrée dans les arts plastiques, en fait, a été assez naturelle. Mais des fois, je me demande si je n'ai pas fait de la sculpture parce qu'il faisait de la peinture, justement.
Oui, ben pourquoi pas, oui, bien sûr. Mais est-ce que la sculpture que vous avez commencé à faire, c'était dans quelle matière ?
Alors, la sculpture, moi, le matériau, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'étais dans l'atelier d'Isabelle Valberg, qui était une femme que j'ai énormément aimée.
Je l'ai bien connue, oui.
Et donc, j'ai travaillé beaucoup le plâtre. Le plâtre est toujours resté, d'ailleurs, mon matériau de cœur. C'est vraiment le matériau qui m'est le plus proche dans ce que je fais, qui permet de voir de manière la plus définie possible un objet dans l'espace de mon point de vue. Parce qu'ensuite, la résine, effectivement, c'est très compliqué. C'est déjà... quasiment impossible de prévoir une forme en plâtre quand elle est transposée en résine, d'autant plus que ce sont des résines translucides. Donc il y a un jeu de superposition de surface qui change la densité sans cesse de la sculpture. Donc c'est
oui, mais c'est bien ça, votre sculpture.
Oui.
Bien sûr. Oui, le plâtre. Mais le plâtre alors, il faut dire le plâtre de Paris, parce que c'est un plâtre un peu particulier. Et je sais que le Bernin aimait beaucoup, enfin, faisait toutes ses esquisses en plâtre aussi.
Oui.
Mais ça, le plâtre, oui, c'est une merveille. Mais donc, là, on parlait, au fond, de la peau, de la sculpture... vous pouvez nous en dire encore un peu plus, peut-être.
Je pense que mon travail, d'une manière générale, on peut dire, il est concentré beaucoup sur la surface. Donc là, la surface, là où la surface s'arrête, là où elle se rompt. Donc, en fait, le passage du plâtre à la résine, il est un peu curieux. Parce que ça s'est il s'agissait toujours de surface, mais il s'est trouvé que justement de transcrire un volume dans l'espace et d'en changer sa matière, ça changeait complètement la perception de cet objet. Mais en tout cas, je ne vois pas de différence fondamentale. Il y a une différence de perception, certes, mais au niveau de la conception, moi je fais très peu de dessins en fait, mais je fais beaucoup de dessins en volume. Donc voilà, après c'est un saut un peu du plâtre à la translucidité, aux valeurs de lumière. Voilà, mais le plâtre reste mon matériau de cœur.
Il est vrai, oui, enfin vous le dites, c'est que c'est surtout vos sculptures en matière plastique qui ont retenu l'attention du jury du prix Del Duca. Parce que justement, le plastique, on pense au plastique des bouteilles ou des choses comme ça, mais là, le plastique a à la fois une surface et à la fois une profondeur et même une couleur. Je crois que c'est ça qui a fait l'attention du jury. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui, alors ce qui est très difficile, en fait, qui est assez difficile, je dois dire, c'est que la résine, en fait, les résines polyester ou époxy, sont en fait une espèce de colle qui n'a pas grand intérêt. Ce n'est pas un matériau qui a une grande noblesse, si ce n'est que c'est un matériau qui a une très grande sensibilité à son environnement. Donc, par exemple, sur les grandes pièces que j'ai pu faire, le passage d'un nuage, les pièces qui sont à l'extérieur, va faire changer complètement de densité, donc de définition, une pièce. Il y a des pièces qui peuvent être très légères le matin, très lourdes le soir, parfois l'inverse en fonction des conditions météo. C'est d'ailleurs intéressant parce que les couleurs chaudes donnent souvent des couleurs très froides sur la résine. Enfin, c'est un vrai casse-tête. Et en fait, même si ça fait maintenant longtemps que je travaille ces matériaux, c'est très difficile de prévoir. C'est quasiment... Il faut le jouer. Il y a un côté un peu joueur. Bon, bien sûr, j'en sais plus qu'il y a 20 ans, mais pas tellement plus, finalement.
Ah, c'est toujours un peu une énigme. Hein,
oui.
Voilà, bien sûr.
Complètement.
Mais alors, là, évidemment, on ne peut pas montrer vos sculptures, mais quand je les regarde, moi, au premier coup d'œil, je vois quand même surtout qu'elles se présentent comme des boîtes. Et donc, ce sont en quelque sorte des récipients, si on peut dire. Mmh. Et au fond... ça crée une interrogation. Quel est le sens à trouver? Est-ce qu'il y a une énigme? Est-ce que vous posez une énigme? Est-ce qu'il y a une histoire entre les formes, leur matière, leur transparence, leur couleur? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Oui. Alors effectivement... ces espaces qui sont en fait, on peut les effectivement dire comme des espaces ou des boîtes ou des enclos.
Des théâtres.
Voilà, mais il y a. Alors, le problème justement de cette transparence de la résine, c'est qu'elle-même, elle déborde en fait un peu sa forme. Donc, comme elle est quand même un peu colorée, et c'est ce qui est très compliqué parce que. Par exemple, il y a une grande pièce qui s'appelle Partita où j'ai fait 100 kilos d'essais de couleurs. Mais quand on a un échantillon de cette pièce, en fait, si on le regarde à la lumière, on voit quasiment pas de couleurs. Mais en fait, c'est la densité et la surimposition des surfaces qui, à chaque fois, donnent la couleur. Donc, c'est... quand même quelque chose de très sensible de très délicat, de très casse-gueule aussi, parce qu'on peut très très vite complètement être à côté. Donc il y a une attention à avoir, mais en tout cas, cette attention à, qu'on a, qu'on doit à la pièce, je dirais, elle dépend beaucoup de son volume et de son, volume dans l'espace, quoi, de la, densité qu'on veut lui donner ou non. Et il y a une pièce, justement, je profite, qui est une pièce très très noire qui a été faite avec du feutre de basalte, c'est-à-dire qu'en général, les pièces sont faites avec des fibres de verre. Et c'est une pièce complètement noire, opaque. Et ce qui est très curieux, ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est quand on met cette pièce dehors, quand il y a vraiment du soleil, elle produit une lueur. C'est très étonnant. Enfin, voilà. Ce sont des phénomènes que j'aimerais bien continuer à comprendre mieux pour pouvoir les développer, quoi.
Mais je crois que vous avez déjà exposé en Italie, je crois que c'est la villa, je ne sais plus quelle...
À Verzegnis, au
villa c'est de ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est parce que là, le public a peut-être réagi.
Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un collectionneur qui est très, on va dire... important, connu dans le monde de l'art, qui s'appelle Egidio Marzona, et qui m'avait invité par un concours de circonstances tout à fait étrange pour moi, à faire une sculpture dans son parc de sculptures. Mais ce qui est très joli dans ce parc, c'est tout à fait au nord de l'Italie, c'est vers la Slovénie et l'Autriche. Et ce qui est vraiment très joli, c'est que c'est complètement ouvert. C'est-à-dire, c'est pas un parc, il n'y a pas de grille. C'est un petit village de montagne qui était le village de son grand-père. Et les gens traversent le parc pour aller prendre le bus ou pour aller faire leurs courses. C'est un très joli lieu avec les montagnes. C'est très étonnant.
Mais au fond, à vous entendre, votre sculpture est plutôt faite pour être dehors, alors pour être face au soleil, ou bien vous la voyez aussi dans les intérieurs.
En fait, ce qui est le plus important dans mon travail, je vais dire, c'est le déplacement. Donc, c'est sûr que je travaille quand même à la taille humaine, quoi.
Oui.
Le déplacement met complètement en mouvement l'espace de la pièce et aussi l'espace autour de la pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais les pièces en résine que j'ai faites les 25 ou 20 dernières années, c'était des pièces quand même plutôt un peu... avec lesquelles on avait un rapport au corps direct. Mais j'ai fait beaucoup de petites pièces depuis. Là.
Oui, moi je me souviens d'exposition.
Oui. Et j'ai eu beaucoup de, j'étais très content de les faire et très très heureux de les faire parce que j'étais pas sûr d'arriver à les faire.
Oui, non, mais si c'est évidemment là, elle ne bénéficie pas du changement du soleil, mais il suffit de les mettre bien en place quelque part. Ouais. Et elles ont quand même une réalité, quoi.
C'est... Oui. Et je trouve que, moi j'ai toujours cette passion tout à fait vierge pour la sculpture. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui a à la fois une aura et une trace, ou avec un côté archaïque qui est quand même plus que précieux, quoi.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez eu le public, comment il réagit, le public? il est quelquefois un peu surpris ou bien...
Alors, bon, je pense, enfin, après, chacun a sa nature. Moi, je n'ai pas une nature très, très, comment dire, je ne suis pas quelqu'un de très... médiatique ou je suis dans mon atelier, j'essaie de travailler, je suis à la campagne, je vois pas beaucoup de personnes. Le problème de la sculpture, c'est que c'est très compliqué, enfin c'est pas à vous que je vais expliquer oui. Ça, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre, à déplacer, c'est lourd, c'est... Donc, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué que de faire des aquarelles ou autre chose. Donc, ça, mais c'est sûr.
Est-ce que vous auriez, par exemple, un mot que vous pourriez associer à la création artistique, à votre création, ou à la création en général, mais peut-être à vous, un mot qui résumerait un peu ou qui...
En tout cas, par rapport à la sculpture, parce que oui. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la trace, comme l'empreinte et la trace, et c'est quelque chose qui est tout à fait dépendant, enfin. De l'humain, de pouvoir lire cette trace. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui a existé, qui existera, j'espère, et qui résume bien aussi la possibilité de l'humain de s'inscrire dans l'histoire.
Oui, un mot. Quoi. C'est le mot, ouais. le mot que l'homme peut dire, quoi.
Ouais.
Comme un mot, oui. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça nous a
merci à vous.
Intéressé. Et écoutez, bonne chance pour
merci continuer. Beaucoup. C'est très gentil de m'avoir invité.
Mais non, je vous en prie. Voilà. Merci.
Passerelle des Arts. Le podcast de l'Académie des Beaux-Arts.